été Antonio, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel bilan dressez-vous de cette visite en France? A-t-elle permis, selon vous, de consolider les bonnes relations entre la France et l'Angola?
Oui, et tout à fait. Nous pensons que cette visite a effectivement permis de consolider le lien entre la France et l'Angola. Du point de vue de son contenu, et nous sommes aussi arrivés à la conclusion qu'étant donné les dynamiques entre l'Angola et la France, et les dynamiques dans chacun de nos pays, et qu'il fallait adapter cette relation aux circonstances actuelles. C'est pourquoi nous avons signé, bien qu'on ait déjà eu un accord général sur la coopération économique, nous avons signé un nouvel accord qui est justement l'adaptation, n'est-ce pas, de notre relation, de notre coopération économique au moment, aux circonstances actuelles. Et c'était aussi une très bonne opportunité de pouvoir échanger sur des questions régionales d'abord, en ce qui concerne nous, l'Afrique, et des questions internationales. C'est étant donné le rôle que chacun de nous joue dans nos régions respectives, mais aussi le point d'intersection que nous avons dans la sphère multilatérale.
Vous diriez que les axes forts de ce partenariat, ils sont à la fois économiques mais aussi diplomatiques?
Oui, tout à fait. Nous sommes en train de parler en marge d'un forum économique où les entreprises françaises et angolaises vont pouvoir se parler et auquel le président Joao Lourenço a lui-même tenu de participer. Donc ça, c'est le volet économique. Le volet diplomatique, nous avons parlé des questions régionales, surtout les questions des conflits en Afrique. Nous avons parlé de la prochaine présidence de l'Angola de l'Union africaine et la présidence de la France du G7 qui intervient en 2026. Et donc il y a un pont, il y a deux ponts à construire entre nous pour faire en sorte que les intérêts des uns et des autres sont pris en compte. Il y a tout un tas de sujets dont nous avons traité, y compris la question d'entrée aux Nations Unies, la vieille question de la réforme du Conseil de sécurité et la place de l'Afrique a été aussi une des questions principales, étant donné la responsabilité primaire du Conseil de sécurité de s'occuper des questions de paix et de sécurité auxquelles l'Angola contribue.
Justement, sur le volet diplomatique, on sait que le conflit dans l'est de la RDC a été au centre des discussions jeudi entre les deux présidents. Qu'est-ce qu'il s'est dit concrètement?
Bon, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est pouvoir faire en sorte que la dynamique enclenchée par le processus de Luanda continue.
Mais alors concrètement, comment faire pour relancer ce processus de Luanda?
Bon, mais il faut continuer à travailler avec le parti et ne pas surtout jeter l'eau et le bébé. Je parle de certains acquis que nous avons eus pendant les négociations de Luanda entre ministres, du point de vue de points chauds, n'est-ce pas, de points difficiles qui gênent en tout cas la relation entre les deux pays et la paix à l'est de la RDC, dont la question de retrait de force et la question de neutralisation de FDLR et la question du M23 qui sont les trois questions principales qui ont été objet de négociations et où on a fait des progrès sur la question entrée au retrait de force y compris de force du Rwanda de la RDC, la neutralisation de FDLR. Donc c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas jeter l'eau et le bébé. Ces acquis que nous avons atteints doivent faire en sorte qu'on puisse les consolider et pour pouvoir trouver une réponse, un résultat plutôt, un consensus sur les questions qui restent. Et ça, on peut le faire à plusieurs niveaux. Et là, on était déjà au niveau des chefs d'État parce que nous croyons que quand les ministres sont bloqués, c'est bien les chefs d'État qui doivent les débloquer.
Alors justement, comment permettre de relancer la discussion entre les chefs d'État au plus haut niveau? Les deux présidents l'ont dit à leur sortie de leur rencontre à l'Élysée. Comment est-ce qu'on peut faire pour les faire s'entendre, du moins discuter entre eux? Quels sont les moyens que vous avez de votre côté pour essayer de favoriser le dialogue?
On ne va pas inventer la roue. On n'en a qu'un seul moyen, c'est de parler. Et on l'a fait et on le fait déjà depuis plusieurs, quelques années au moins, pas seulement sur cette crise, tout comme quand on était impliqué dans la crise entre le Rwanda et l'Ouganda, et la crise en RCA. Ce que nous prenons, c'est le dialogue. Et donc il n'y a pas de roue à inventer, sinon de parler.
Mais alors le dialogue, pour dire quoi et pour quoi faire concrètement?
Mais pour trouver des solutions, c'est ce que je viens de dire. Je viens là de citer des questions sur lesquelles on a avancé. Il y a une question qui bloque jusque-là, c'est justement la question du M23. Et donc c'est celle-là, c'est ça le hic qu'il faut chercher à résoudre. Et ça ne se fait pas. Nous sommes convaincus que la guerre ne résoudra pas le problème. C'est surtout. Si on peut aller plutôt à une table de négociation, plutôt que de faire la guerre pendant plusieurs années pour revenir à la même table, autant prendre les raccourcis.
Le problème autour du M23, c'est quoi concrètement?
C'est clair. Il y a une partie qui veut qu'il y ait un dialogue direct. Il y a une autre qui pense qu'il faut que ça passe par un processus, dont celui de Nairobi. Donc, il y a ces différences d'opinion. Il faudra trouver un moyen pour pouvoir rapprocher le point de vue, c'est ça.
Et une rencontre entre les deux présidents vous paraît possible à court ou moyen terme?
Je n'ai jamais trouvé de l'impossible. Entre les hommes, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais. Mais les hommes toujours. Et nous continuons à croire que quand les conditions se réunissent, les chefs d'État peuvent se rencontrer.
On parlait là du conflit dans l'est de la RDC. Le continent est également touché par une autre terrible guerre au Soudan que personne ne parvient à arrêter. L'Union africaine semble comme absente de ce dossier-là aussi. L'Angola va prendre la présidence de l'Union africaine le mois prochain. Comment l'organisation peut-elle parvenir à faire entendre sa voix sur ces dossiers, Tete Antonio?
Le président Lorenzo, dans tous ses discours, que ce soit à l'Assemblée générale, il a exactement utilisé le même expression que c'est le conflit du Soudan dont on ne parle pas assez. Et il n'a jamais raté une occasion pour le faire. De un, comme vous comprenez, le Soudan est un membre de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs que nous présidons. Et d'ailleurs, c'est le Soudan qui devait prendre la présidence de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, mais suite à la situation interne du pays, c'est pourquoi l'Angola avait pris. Ça signifie que c'est une question qui est au cœur aussi de nos préoccupations. Nous avons eu une réunion de cette même conférence à Luanda qui a traité de la question du Soudan. Deuxièmement, le président Lorenzo a dit dans son discours, un de ses derniers discours, qu'étant président de l'Union africaine, il va consacrer une attention particulière à la question du Soudan. Et troisièmement, il est membre du comité créé par l'Union africaine et dirigé par le président Museveni qui est censé se pencher sur la même question. Donc, les mécanismes sont là. Il faudra que, sûrement, quand le président Lorenzo prendra la tête de l'organisation, il va s'impliquer encore plus parce qu'il en aura la responsabilité, à part sa responsabilité actuelle. Et comme vous comprenez, et que vous comprenez qu'il est le champion de l'Union africaine pour les questions de paix et réconciliation en Afrique. Donc, il a des responsabilités. Et à ce sujet, il ne manquera pas de s'occuper de cette question du Soudan. Mais parce que nous pensons que le Soudan, c'est un pays, c'est le microcosme de l'Afrique, hein, c'est comme on l'a toujours appelé. C'est un pays tellement important. Et que les conséquences ne se limitent pas au Soudan. Comme vous voyez, il y a le déplacement des réfugiés au Tchad, en République centrafricaine, et partout ailleurs. Et nous pensons que c'est une situation que nous ne devons pas continuer à regarder sans pouvoir agir. Et, et cette action, évidemment, ne peut pas être isolé à l'Afrique. Ça doit être sur le monde qui doit regarder aussi le Soudan.
Une dernière question, monsieur le ministre. Donald Trump sera investi lundi président des États-Unis. Quel regard portez-vous sur son retour au pouvoir?
En ce qui concerne l'Angola, nous disons que nos relations, ce n'est pas des relations entre personnes, c'est des relations entre des États. Nous avons une relation avec l'Amérique que nous voudrons bien continuer à développer, quel que soit le président qui est aux États-Unis. C'est cette relation avec l'Amérique que nous regardons.
Mais est-ce que vous ne craignez pas que les relations changent avec cette nouvelle administration Trump par rapport à l'administration Biden?
Dieu a fait chacun de nous comme un être particulier. Ça changera entre toi et moi. Et je sais que chacun de nous a un cachet, mais il faut regarder l'essentiel. Il faut regarder le grand tableau. Je crois bien que tout leader, le grand tableau ne passe pas inaperçu aux leaders, donc aux intérêts de chacun de nos pays.
Vous avez déjà noué des contacts avec la future administration?
Elle n'est pas encore là, donc on le fera le mois venu.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci.